Êtes-vous spirituellement pauvre ? Une compilation. La première béatitude de Jésus, ou voie de la félicité, se trouve en Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Le mot « heureux » est une traduction du mot grec « makarios », qui exprime une profonde joie intérieure que rien ni personne ne peut donner ou voler. En revanche, la pauvreté dont il est question dans ce verset n'est pas la condition de celui qui est simplement pauvre, mais celle d'une personne qui est dans le plus complet dénuement. Elle décrit une personne qui n'a rien à manger et qui n'a aucun vêtement ni aucune possession. L'expression « spirituellement pauvre » qualifie le type de pauvreté dont parle Jésus. Être spirituellement pauvre, c'est reconnaître notre faillite spirituelle devant Dieu. La version anglaise de la New English Bible traduit cette phrase comme ceci : Heureux sont ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. Pourquoi ? Car le royaume des cieux leur appartient. Le royaume des cieux est le domaine dont Dieu est le roi. En Matthieu chapitre 6, verset 10, Jésus nous enseigne à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Et c'est bien là le problème, c'est seulement lorsque nous comprendrons à quel point nous avons besoin de Dieu que nous ferons de Dieu notre roi, sinon nous essayerons d'être roi à sa place. C'est ici que nous découvrons la question fondamentale de la source de tout ce qui est vrai dans la vie. Du succès, de la joie, de la paix et du bonheur. Qui est votre roi, vous ou Dieu ? Être pauvre spirituellement, c'est commencer par admettre que nous ne savons pas comment mener notre vie ou prendre nos propres décisions et donc nous commençons toujours par prier. Nous confions à Dieu nos problèmes et nos ambitions, nos difficultés et nos rêves. Lorsque nous sommes pauvres spirituellement, nous reconnaissons chaque jour que tout dans la vie ne tourne pas autour de nous. Ce qui compte vraiment, c'est de vivre et se comporter d'une manière qui glorifie Jésus et qui incite les gens autour de nous à l'accepter comme leur roi. Il est naturel que les gens jugent le Christ à la façon dont vivent les chrétiens. Lorsque nous vivons d'une manière qui honore notre Seigneur, nous amenons les autres à l'honorer également. Tout ce que nous faisons est un moyen de parvenir à cette fin. Donc, la question qui se pose est la suivante. Reconnaissez-vous que vous êtes spirituellement pauvre ? Vous comportez-vous dans la vie en reconnaissant que Dieu est votre roi ? Ou bien essayez-vous de prendre vous-même le contrôle de votre vie ? Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, réfléchissez-y. Et posez-vous ces questions. À quand remonte la dernière fois où vous avez remis une décision importante entre ses mains ? Quel est le dernier problème que vous lui avez confié en prière ? À quand remonte la dernière fois où vous avez soumis votre volonté à la sienne, même si vous ne compreniez pas ou que vous n'étiez pas d'accord ? Et si vous lui posiez la question, Dieu dirait-il qu'il est votre roi aujourd'hui ? Si la réponse est négative, sachez que vous n'inspirez ni frustration ni déception à Dieu. Au contraire, il vous invite aujourd'hui à reconnaître qu'il vous aime plus que vous ne pourrez jamais le comprendre et qu'il tient à ce que vous ayez une vie remplie de bénédictions et de joie. Le laisserez-vous être votre bon roi aujourd'hui ? Jim Dennison et Ryan Dennison. En Matthieu chapitre 5, verset 3, Jésus parle des pauvres en esprit, c'est-à-dire de ceux qui sont spirituellement pauvres. Jésus dit que, indépendamment de votre condition dans la vie, vous devez reconnaître votre pauvreté spirituelle avant de pouvoir venir à Dieu dans la foi pour recevoir le salut qu'il vous offre. Pourquoi et comment le fait d'être spirituellement pauvre nous permet-il d'accéder au royaume des cieux? Bien que l'expression ait un sens assez large, le royaume des cieux désigne essentiellement le salut. Le royaume des cieux est à la fois l'éternité au ciel avec Dieu après la mort et la qualité de vie éternelle avec Dieu avant la mort. Dieu nous offre le salut en cadeau grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est le paiement intégral de la peine encourue pour le péché. Avant de recevoir ce cadeau, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas le mériter. Le salut s'obtient uniquement par la grâce, par le moyen de la foi et non pas par nos œuvres. Nous devons reconnaître notre condition de pécheur avant de comprendre que nous avons besoin d'un sauveur. Nous devons reconnaître notre pauvreté spirituelle avant de pouvoir recevoir les richesses spirituelles que Dieu nous offre. Bref, nous devons être spirituellement pauvres. Lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient », il déclare qu'avant de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, nous devons reconnaître que nos efforts spirituels n'ont absolument aucune valeur et que nous sommes incapables de nous sauver par nos bonnes œuvres. GodQuestion.org Qu'est-ce que cela signifie? Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Que signifie être pauvre spirituellement? Pour le savoir, tournons-nous vers quelques-uns des grands hommes de Dieu dans la Bible. Jean-Baptiste. Moi, leur répondit Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Serait-ce pour cette raison que Jésus a dit « Je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Le collecteur d'impôts. Jésus a raconté la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts qui montaient au temple pour prier. Au sujet du publicain, il dit « Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Ce qui est une autre façon de dire « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. » Le centurion. Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. » Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, Il admira l'officier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. » La femme cananéenne. Quand Jésus a d'abord refusé de lui venir en aide sous prétexte qu'elle n'était pas juive, elle a dit « C'est vrai, Seigneur, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Sur quoi Jésus répondit « Ô femme, ta foi est grande. » Nous apprenons donc que la pauvreté spirituelle est au cœur même de la foi véritable. Qu'est-ce que la pauvreté spirituelle ? C'est avoir conscience que nous sommes impuissants par nous-mêmes. C'est un sentiment de faillite spirituelle et d'inaptitude devant Dieu. C'est un sentiment d'impureté morale devant Dieu. C'est un sentiment d'indignité personnelle devant Dieu. C'est le sentiment que, pour qu'il y ait la vie, la joie et une quelconque utilité, il faut que tout vienne de Dieu et de sa grâce. Il convient de ne pas dissocier la première et la deuxième béatitude. L'expression « heureux ceux qui pleurent » clarifie le caractère subjectif de la pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui sont spirituellement pauvres et qui sont affligés. Heureux les gens qui ressentent profondément leur insuffisance, leur culpabilité, leurs échecs, leur inaptitude, leur indignité et leur vacuité, et qui n'essayent pas de cacher ces carences en se drapant dans un manteau d'autosuffisance, mais qui les reconnaissent en toute honnêteté, et qui sont affligés et poussés vers la grâce de Dieu. Heureux êtes-vous, car vous serez consolés. John Piper. Le plus célèbre de tous les sermons, le sermon sur la montagne, fut donné à une poignée de montagnards par le plus grand de tous les montagnards, Jésus, qui, pour finir, gravit sa dernière montagne, le mont Calvaire, le Golgotha, et mourut seul pour les péchés du monde. C'est une montagne que lui seul pouvait gravir, pour vous et moi, et il l'a fait. Après que les disciples de Jésus eurent entendu son sermon sur la montagne, ils descendirent et changèrent le monde. Ils ne furent plus jamais les mêmes. Ils avaient entendu la voix de Dieu qui leur enseignait des choses totalement contraires à ce qu'on disait dans la vallée. Dans la vallée, on disait « Heureux les Romains, les fiers et les puissants. Regardez ce qu'ils ont réussi à accomplir. Ils ont conquis le monde. Ça paye d'être Romains. » Mais sur la montagne, Jésus leur disait exactement le contraire. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. D'humbles pêcheurs illettrés écoutaient un menuisier leur dire des choses qui allaient faire d'eux de plus grands dirigeants que les empereurs de Rome. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Ces pauvres disciples ignorants et sans éducation, car le royaume qui va gouverner l'univers, est à eux. David Brown Burke.